Je propose donc que l'on commence, parce que nous avons un impératif d'horaire. Il nous faut absolument libérer l'amphi à l'heure dite, puisque celui-ci sera préparé pour le concert de ce soir. Bien, donc nous en arrivons à la dernière intervention de la journée, celle de Madame Viviane Matartouma, qui est docteur en psychologie, psychologue clinicienne et psychanalyste, qui travaille à l'Institut Père Robert pour jeunes sourds à Chaïlé, je pense que je prononce bien.
Chaïlé,
au Liban, donc c'est à 30 km de Beyrouth, me dit-on, et qui va donc intervenir sur le thème suivant, à savoir la simulation cognitive comme moyen de prévention de certains troubles de l'apprentissage. Madame, quand vous voulez.
Oui. Bonjour. Alors, je voudrais partager avec vous une expérience et un cheminement qu'on a établi depuis quelques années dans notre établissement pour jeunes sourds qui comprend une centaine d'enfants déjà de 6 mois pour éducation précoce jusqu'à l'âge de 20 ans. Alors là, nous avons constaté que parfois, durant l'enseignement ordinaire, il y avait des troubles qu'on ne pouvait pas remarquer, qu'on ne pouvait pas dépister, et aussi qu'il y avait des troubles qui méritaient d'être suivis. Alors, nous avons établi ce qu'on appelle un peu les ateliers de stimulation que je vais essayer de vous présenter. Alors là, je vais faire une présentation qui ne va pas être très longue, justement pour pouvoir vous mettre une séquence vidéo d'un atelier, juste pour essayer d'illustrer un peu le travail que nous faisons. Alors, troubles ou difficultés, un enfant sourd peut présenter comme tout autre personne un dysfonctionnement, donc un trouble d'apprentissage, c'est quelque chose qui est permanent, ou bien un obstacle à l'apprentissage, donc lié à des conditions socio-affectives et familiales difficiles, donc il s'agit de difficultés et c'est quelque chose de temporaire. Alors il s'agit de bien situer le problème, que ce soit trouble ou difficulté, avant toute tentative de prise en charge ou de remédiation. Mais souvent, l'enfant aussi est victime d'un mauvais diagnostic et par conséquent d'une remédiation non adaptée à sa vraie situation. Donc, il est nécessaire, que ce soit trouble ou difficulté, de trouver des issues constructives, donc des ateliers de stimulation, sont programmés à raison d'un atelier par semaine par groupe d'enfants et sur toute l'année scolaire. Donc, nous misons beaucoup sur le facteur temps et sur le facteur aussi de la répétition d'activités dans un contexte bien déterminé, dans un cadre bien déterminé. Et c'est en effet tous ces facteurs-là qui vont jouer un rôle déterminant dans ce contexte-là. Alors, les intervenants peuvent être des éducateurs, des psychologues, des orthophonistes, des psychomotriciens, et donc tous ceux qui sont dans le paramédical. L'objectif, c'est justement qu'il y ait au moins 2 personnes par atelier. Donc, ça peut être l'éducateur, le psychologue, ou bien l'éducateur, l'orthophoniste, ou bien psychologue, psychomotricien. Donc, tout dépend des activités, tout dépend de la thématique qui a été posée. Donc, l'atelier de stimulation, si on va le présenter, ce n'est pas un enseignement, c'est un atelier qui vient renforcer un apprentissage. C'est une activité thématique qui cible un des aspects qui mettent l'enfant en situation de difficulté et ou d'échec. Donc, chaque séance peut durer entre 50 et 70 minutes, dépendamment des objectifs et contenus de chaque séance. Alors c'est important aussi de prendre le côté formation, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas travailler dans ce contexte. Accompagner et ou enseigner un enfant sourd, ça nécessite d'être familier avec le monde de la surdité. Donc toutes les personnes qui vont travailler dans notre établissement devraient suivre une formation pour les sensibiliser un peu au monde de la surdité. Être en connaissance des moindres détails susceptibles d'affecter l'évolution de la personne sourde, être prêt à adapter un enseignement ou une prise en charge aux besoins de l'enfant. Maintenant, du côté de l'enfant, il est nécessaire de savoir que la surdité en soi ne porte pas directement atteinte aux capacités mentales, motrices et cognitives, mais elle peut toutefois retarder le rythme des acquisitions. Donc on parle d'un retard dans les acquis, d'un retard dans le développement. Donc en l'absence de troubles associés à la surdité ou en l'absence de syndrome, le développement psychologique et moteur de l'enfant sourd serait semblable à celui d'un enfant tout venant, lorsque toutes les autres conditions, qu'elles soient familiales ou sociales, sont favorables. Donc la personne sourde a les capacités cognitives requises, toutefois un retard dans les acquis ou dans le langage est remarqué à défaut d'audition et d'éducation précoce. Donc, quel est l'objectif des ateliers de stimulation? Tout d'abord, amener l'enfant à découvrir par lui-même. Donc, c'est le concept de construction, c'est un peu le concept piagétien. Rassembler les informations nécessaires, faire des liens, donc donner un sens à ce qu'il est en train de faire. En somme, faire l'action qui lui est demandée. Et c'est ce qu'on appelle aussi la stimulation de la pensée. Donc par les ateliers de stimulation, nous stimulons la pensée de l'enfant. Que veut dire penser? Penser, c'est avoir la capacité, le désir et la volonté de se concentrer, de réfléchir, de mettre en lien des connaissances. Alors la volonté relève du contexte psychique. La personne qui n'a pas de volonté, c'est une personne qui perd l'envie, le désir, l'intérêt, qui est mal à l'aise, qui est opprimée, qui est malmenée. Toute personne qui est marginalisée, qui est rejetée, qui est sous-estimée. Toute personne qui est inhibée. Donc lorsque la personne ne veut pas, elle risque de stagner, de faire du surplace, ou bien de régresser. Ça, c'est des conditions aussi qu'il faut prendre en considération pour comprendre pourquoi l'enfant n'arrive pas à penser, c'est qu'il y a quelque chose de déstabilisant. Donc, si l'enfant sourd a du mal à penser, c'est ou bien par inhibition, ou bien par délimitation sur le plan cognitif, donc de troubles, ou bien par carence éducative, donc manque dans les acquis, dans les stimuli, ou bien par manque de méthode, parce qu'on ne lui a pas fourni de méthode, ou bien par manque d'une stratégie d'action, donc il n'a pas trouvé sa stratégie, par manque d'habitude de réfléchir, de faire des liens, parce qu'il y a quelqu'un qui réfléchit à sa place. Donc, pourquoi penser est-il aussi important? Parce que ça renforce la confiance, ça c'est un peu le côté psychologique des choses, ça renforce la confiance, l'estime de soi, les connaissances, la communication. Bien sûr, l'échange et les interactions quand ça se fait dans le cadre d'un groupe. Ça, c'est en fait deux photos donc d'ateliers de stimulation pour jeunes donc entre 13-14 ans et 5-6 ans. Donc ça peut être des techniques ou bien en individuel ou bien en groupe. Alors, un premier atelier qui peut porter sur la manipulation et la découverte. Par exemple, ces jeunes-là qui vont découvrir par eux-mêmes tout ce qui est sensoriel, tout ce qui passe et ne passe pas dans un entonnoir, tout ce qui peut être lisse, rugueux ou autre, c'est basique dans l'enseignement du préscolaire, mais quand c'est mis dans un cadre d'atelier de stimulation, il n'y a pas de personne qui dirige ces ateliers-là, donc le matériel est là, et les enfants sont livrés à eux-mêmes pour essayer de découvrir et de voir ce qu'ils peuvent faire avec. Alors là, si vous voyez bien, donc déjà ça interagit et il y a même une personne qui essaye de lui dire pourquoi tu m'as pris mes affaires. Donc on les laisse en interaction et chacun va essayer de prendre sa part des choses. Donc on se base sur les deux pédagogies, naturellement pédagogie de la découverte et de la médiation, parce que si on prend un peu Piaget, donc il parle de la découverte de l'expérience personnelle, mais Vygotsky parle aussi de l'importance du médiateur, et nous pensons dans nos ateliers que les deux techniques se complètent. Donc d'un côté, il doit y avoir la découverte, mais si on veut atteindre les objectifs de l'atelier, parfois, le médiateur est nécessaire dans ces conditions-là. L'atelier aussi vise l'apprentissage et l'acquisition. Donc, pour apprendre, il faut s'intéresser. Pour s'intéresser, il faut bien sûr faire attention et essayer de rassembler les connaissances nécessaires pour arriver à penser. C'est un peu le même processus qu'avant. Alors voilà, ici, avec un matériel de psychomotricité, les enfants livrés à eux-mêmes, ils essayent de découvrir ce qu'ils peuvent faire avec. Là, nous avons aussi des manipulations, construction et apprentissage. Voilà, donc construction ou bien appropriation dans un second temps. Donc, qu'est-ce qui donne le plus à penser? C'est que nous ne pensons pas encore. Voilà. Alors, comment amener pratiquement l'enfant à penser? Il faut miser sur le fait d'être non directif ou bien, dans certains cas, semi-directif. Inciter à faire des recherches, à découvrir. Alors là, il faut être vraiment, en tant qu'intervenant, très patient pour ne pas prendre le dessus de la situation. L'enfant a besoin de découvrir et de tâtonner par lui-même. Varier les moyens pour l'intéresser. Encourager sa participation et sa créativité, même si il nous semble qu'elle n'est pas assez importante. Tout est important à l'échelle de l'enfant et jamais à la nôtre. Favoriser la mise en lien. Lui apprendre à donner un sens à ce qu'il est en train de faire et surtout lui donner le temps. Parce que finalement, dans les troubles d'apprentissage, c'est le facteur temps qui joue un rôle. Il y a ce qu'on appelle un peu la vitesse d'exécution quand on évalue sur le plan cognitif et psychologique la vitesse d'exécution. Un enfant est capable parfois de faire, mais il a besoin d'un peu plus de temps. Alors si on lui donne le temps, on voit qu'il a acquis, qu'il a la possibilité de prouver quelque chose. Mais si on ne lui donne pas le temps, on a l'impression qu'il n'est pas du niveau. Et parfois, c'est là où on est parfois induit en erreur. Lui créer un cadre sécurisant, parce que vous savez qu'un enfant, s'il n'est pas bien cadré, s'il ne se sent pas bien dans son cadre, il ne va pas pouvoir interagir. Voilà. Ça, c'est un peu de photos, des photos de plusieurs ateliers. Donc, en somme, si on va résumer tout ça, si on dit à l'enfant « tu dois penser », avant de répondre à la question, cela veut dire que tu dois rassembler tes informations, tu dois leur donner un sens, faire une synthèse, donc me donner une réponse, ce qui est l'action. Donc l'acte de penser est une démarche et on se demande si les enfants sourds sont capables à eux seuls, livrés à eux seuls, d'entamer cette démarche. Alors les ateliers qu'on propose, c'est des ateliers de libre expression et de motivation, des ateliers d'attention et de concentration, des ateliers de perception et des ateliers de mémoire. Comme je l'ai dit au début, c'est des ateliers qui devraient se faire une fois par semaine et sur toute l'année scolaire pour qu'à la fin du parcours, on puisse remarquer la différence du cheminement. Le matériel peut être varié, les personnes aussi intervenantes, donc on change de visage et également de situation, donc c'est des ateliers thématiques, mais les thèmes s'enchaînent d'une manière logique. Bon, ça c'est un exemple très rapide d'un atelier de mémoire. Si on parle de hiérarchie catégorielle, les concepts de la mémoire sémantique sont classés de façon hiérarchique. Donc les catégories sont emboîtées dans les catégories plus larges. L'économie cognitive, c'est lorsque les propriétés spécifiques sont classées avec les concepts. Et le problème que nous avons avec nos enfants sourds, c'est un problème de concept. Parfois, c'est la conceptualisation qui est en jeu. Alors, je vais vous donner ici un exemple qui est très simple, très connu. Quand on prend un animal, on prend d'un côté le poisson, d'un autre côté l'oiseau. Quelles sont les caractéristiques? Un poisson, ça nage, il a des écailles, des branchies. Un oiseau, ça vole, des plumes, des ailes. Et si on prend dans chaque catégorie, déjà chez les poissons, il y a des gentils et il y a des méchants. Chez les oiseaux, il y a plusieurs catégories. Donc, et ainsi de suite. Ça, c'est un peu le côté catégorie. Et c'est très important que ce soit comme ça au niveau de la pensée de l'enfant pour qu'il puisse mémoriser, comprendre et acquérir. Et parfois, quand on ne suit pas cet enchaînement, là, on est vraiment dans des problèmes de mémoire et d'acquisition. Dans l'économie cognitive, si on prend un canari est jaune. La propriété jaune est classée dans le concept canari. Et les propriétés générales, bec et aile, sont classées avec le concept oiseau. Donc quand il divise ces étapes dans sa tête, c'est beaucoup plus clair pour un enfant de pouvoir mémoriser ces sous-catégories. Mais tout ça, ça se fait pas dans un cadre d'enseignement, mais dans un cadre de jeu avec des outils très variés. Alors les connaissances données à l'enfant doivent être structurées, mises dans un certain ordre pour qu'il puisse les mémoriser et les comprendre facilement. Voilà, ça c'est une disposition qui est aléatoire et ça c'est une catégorisation. Par catégorie, donc les légumes et les fruits, bon. C'est pour nous c'est une classification très simple mais elle n'est pas aussi évidente dans la tête de l'enfant. Alors ça c'est une étude justement sur 3 années consécutives d'ateliers de stimulation concernant l'attention qu'on a menée entre 2004 et 2007 avec l'équipe du préscolaire. Alors voilà, c'était un groupe de 9 enfants qui ont suivi dans le cadre d'ateliers. Alors 2004 à 2005, il n'y avait pas d'atelier de stimulation, on avait beaucoup de soucis de concentration avec les enfants. Entre 2005 et 2006, donc l'année, on a déjà entamé cet atelier de stimulation sur l'attention. 2006-2007, on a poursuivi cet atelier, toujours avec le même groupe d'enfants, donc études longitudinales. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu? Bien sûr, on essayait de voir l'attention flottante et le manque d'attention. Alors, vous voyez, il y avait seulement 3 enfants qui étaient attentifs et 2 qui avaient une attention flottante et les autres, un manque d'attention. Ça, c'est en 2005, quand on a fait une première année d'atelier de concentration. La deuxième année, donc 2 années consécutives, nous avons, comme vous voyez, des enfants. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 3 enfants qui avaient l'attention et les autres 4 d'attention flottante, donc c'est beaucoup plus évolué par rapport à avant, et les autres, un manque d'attention. Par contre, en 2007, donc après 2 années consécutives d'ateliers de stimulation à raison d'un atelier par semaine sur toute l'année scolaire, nous avons pu atteindre un maximum, donc 8 des 9 enfants avaient une attention parfaite. Donc ça, ça a été évalué avec des tests, bien sûr, validés en matière d'attention chez les enfants. Donc, partant de ce constat, ça nous a encouragés à aller un peu plus loin et à faire d'autres formes d'ateliers, bien sûr. Et là, ce que je voudrais vous montrer, c'est l'atelier de calcul, donc le nombre, le concept du nombre. Et je vous ai préparé une petite vidéo comme ça pour vous montrer un tout petit peu de quoi il s'agit. Donc, c'est un groupe de 5 enfants. Donc, avant de vous exposer ceci, de vous montrer la séquence vidéo, j'ai constaté, en assistant à un des ateliers, qu'il y avait un souci chez ces enfants-là. Ça, c'était l'année passée. Donc, on a proposé cette année de faire d'autres formes d'ateliers. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, l'enseignante? Elle avait mis un trajet avec des nombres, de 1 à 20, allant comme ça. Et chaque enfant devait se mettre au niveau 0. Et puis, l'éducatrice est de l'autre côté, elle lui montre un nombre. Et bien sûr, il est demandé à l'enfant de sauter autant de fois que le nombre le demande. Alors, un premier enfant, c'est le groupe de 5 que je vais vous montrer maintenant, qui présentait beaucoup de difficultés l'année passée. Alors, le premier enfant était à 0, elle lui montre 2. Donc, il est supposé sauter 2. Alors, en sautant, il compte 1, 2. Donc, 2, 0, il a sauté sur le 1 une première fois. Sur le 2, une deuxième fois, il a dit 2. Pour le même enfant, elle lui a montré le chiffre 3. Qu'est-ce qu'il était supposé faire? Sauter 3 fois. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, l'enfant? Il a sauté une fois et il a dit 3. Moi, je trouve que c'est logique. Hein, c'est logique parce qu'il a été conditionné comme ça. Parce que l'enseignement n'a pas été fait graduellement. Alors, ce que j'ai fait, j'ai enlevé les lettres, les chiffres, et j'ai mis des craies, hein, insignifiants. On a demandé aux enfants de se remettre à 0, et ils regardaient, ils étaient perdus, ils ne voyaient pas le 0, ils ne voyaient pas le 1, comment on va sauter. Donc, quand elle montrait le chiffre 3, l'enfant ne savait plus quoi faire. Donc, c'était un conditionnement, en fait. Donc, dans l'enseignement, il y avait un conditionnement, et c'est là où se posait le problème, et on a pu déceler ce problème que dans le cadre des ateliers. C'est pour ça que, pour nous, ces ateliers sont aussi une façon de dépister ce qu'on ne peut pas voir dans les salles de cours, mais aussi de repenser une autre façon de donner des stratégies d'action et de penser à ces enfants pour qu'ils puissent sortir de leur conditionnement et penser logiquement le concept du nombre. Alors, cette année, j'ai proposé, avec le même groupe d'enfants, justement de faire un autre atelier. Donc, ils sont 5, l'âge varie entre 6 et 7 ans. Ils sont dans le petit primaire, présentent des difficultés au niveau du concept du nombre et sa signification. Alors, il y a 4 étapes dans cette activité. Tout d'abord, ils sont assis comme ça, vous allez les voir, 4 enfants, parce que le 5e ce jour-là, quand on a voulu filmer, était absent. Bon, on s'est contenté de 4, c'est pas grave. Alors, on a mis un lot de bâtonnets de différentes couleurs, sont mis devant les enfants, comme ça, d'une manière aléatoire. Et la première étape, on met des chiffres devant chaque enfant, donc 15, 20, 16, etc. Et l'enfant est supposé prendre autant de bâtonnets que le nombre qui est posé devant lui. Tout simplement, ça c'est la première étape. La deuxième étape, quand la première est finie, alors il devrait tenir compte de la couleur. Donc là, nous avons deux critères. Nous avons le chiffre et nous avons la couleur. Donc il doit prendre... Alors tous ont le même chiffre, 10, 10, 10, mais c'est la couleur qui change. Donc, il devrait au top aussi prendre autant de bâtonnets, mais chacun suivant la couleur. La troisième étape, c'est la même que la 2, mais je ne vais pas tenir compte de ma couleur, je vais tenir compte de la couleur de la personne qui est juste à côté de moi. Donc, si la personne là, elle a le rouge, moi je vais ramasser 10 rouges et je vais lui donner ceci et ainsi de suite. Celle qui est là, juste devant elle, ainsi de suite. Donc, c'est un peu l'interaction dans cet atelier. Le fait de choisir ce qu'il y a chez l'autre et de lui donner. Et la quatrième, qui est un peu plus difficile, c'est faire la même chose mais en diagonale. Donc, chaque personne, elle devrait donner à la personne qui est juste située sur la diagonale. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent, ces quatre étapes vont mettre en jeu? Tout d'abord, la compréhension des différentes consignes, donc l'attention, l'identification, donc la perception, le dénombrement, parce qu'ils vont compter chacun le nombre de bâtonnets qu'ils ont pris, et la position spatiale, c'est-à-dire bon, la disposition de ces différentes personnes. Alors, je vais vous mettre un tout petit peu. Donc, je n'ai pas voulu faire un montage parce que chaque étape est parlante. J'ai voulu le montrer. Alors, pour vous dire un peu, ne vous étonnez pas, nous, parfois, on parle trois langues en même temps. Donc, on parle l'arabe, le français, l'anglais, tout est mélangé parce qu'on est trilingue. Et là, vous allez souvent entendre un peu l'arabe, mais avec l'anglais, parce que l'enseignement est branché surtout anglais dans certains établissements comme deuxième langue. Voilà. Donc, je vais lancer ceci. Voilà. Alors, comme il y a eu plusieurs enregistrements, je vais seulement me limiter à la partie qui nous intéresse. Mais juste, voilà, les enfants, bon, vous pouvez les voir, ils sont contents d'être filmés. Alors, c'est celui-là qui est absent ce jour-là, parce qu'on a filmé en trois temps, trois ateliers, mais le tout dernier, c'est... Bon. Alors, voilà. Alors, la partie qui nous intéresse... qui est juste située là, c'est elle qui va faire toujours les mêmes erreurs qu'elle faisait avant. Elle a même la difficulté à compter, alors que les autres déjà ont fait cette étape. Alors, c'est sa copine qui a remarqué qu'elle fait des erreurs. Elle est supposée prendre 20 bâtonnets, mais elle en prend toujours un de plus. Et à deux reprises, elle a mal compté. Et c'est elle qui avait les problèmes l'année passée qui étaient très marqués. Ils sont beaucoup moins marqués. Et si vous remarquez, l'éducatrice a mis de l'ordre. Avant, les bâtonnets étaient les uns sur les autres. Donc c'est quand on lui a ordonné les bâtonnets qu'elle a pu vraiment compter. Ça, c'est la deuxième étape. Donc là, j'avais demandé à l'éducatrice d'expliquer et de demander à chacun de dire quel est le nombre et quelle est la couleur. Chose qui ne se faisait pas avant. À savoir que chez nous, le signe, ça, c'est il faut attendre, alors que ici, c'est le travail. Chez nous, c'est ça le travail. Donc, il y a un peu de différence. Donc ils ont tous le même nombre, 10, des couleurs différentes, à savoir que la jeune fille là-bas, elle a une surdité moyenne, surdité sévère, et les deux enfants là sont implantés, ils ont des implants cochléaires. On remarque combien la jeune fille là-bas, elle est ordonnée dans sa façon de prendre, alors que la jeune fille ici, elle est tout le temps bousculée. Alors vous voyez, encore une fois, elle a pris un bâtonnet de plus. Donc c'était supposé être 10, elle en a pris 11. La troisième étape. Alors ici, elle leur explique justement les consignes. Et c'était quelque chose qui ne se faisait pas avant, comme je le disais, et probablement c'était une des causes du manque d'attention et de compréhension. Chaque enfant devait répéter la consigne et de voir s'il a compris. Il devait expliquer ce qu'il a compris de la consigne. Et nous avons remarqué pendant un temps assez long que quand il faisait cet exercice, l'enfant petit à petit comprenait plus, les troubles diminuaient, l'attention augmentait, il s'intéressait plus. En fait, ces ateliers de stimulation, ce n'est pas sorcier, hein, c'est des choses qui sont très, très pratiques, d'habitude qu'on fait dans des contextes de jeu, mais qu'on a voulu mettre dans un cadre régulier, thématique. L'enfant sait vraiment quel est l'endroit qui est spécial pour ces ateliers-là. Ils ne se font pas dans les classes. Donc on se déplace dans une autre classe rien que pour ça. Alors voilà, chacun a pris la couleur qui correspond à la couleur de son voisin. Donc le bleu pour ici et le vert pour là-bas. Remarquez une chose, c'est que la jeune fille là-bas a la couleur verte. Maintenant, dans la quatrième étape, on va changer. Mais dans la tête de la jeune fille ici, c'est le vert. Et vous allez voir qu'elle va faire une autre erreur dans la quatrième étape, parce qu'elle va essayer de ramasser le vert, alors que la jeune fille n'a plus la couleur verte. On va passer à la quatrième étape. Ça, c'est la quatrième étape. Alors, vous voyez, la jeune fille n'a plus la couleur verte, c'est du jaune. Mais elle était toujours fixée sur la couleur verte de la troisième étape. Alors, toujours la même explication. Elle devrait donner à sa copine, elle devrait donner à son copain, donc on est là en diagonale. Toujours le même principe. Voilà. Donc c'est la dernière étape. Alors en fait, il y a deux enfants qui prennent le vert. Il est supposé prendre le vert et puis il va réaliser qu'elle prend elle aussi le vert parce qu'il n'a plus de bâtonnet vert à prendre. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que les enfants s'auto-corrigent, corrigent les uns les autres. Et on les laisse faire. Vous voyez, elle a changé. Parce qu'elle, elle ne l'a pas remarqué, c'est les autres. Et voilà. Donc, je vous remercie de votre attention et je suis prête à répondre à vos questions.
Merci, merci beaucoup pour cette intervention. C'était très, très intéressant. Et puis quand on voit les gamins, là, en plein exercice, c'est toujours captivant. Ouais. On est tout de suite en situation, un silence... règne dans la salle. Bien. Des questions par rapport à ces ateliers de stimulation.
Est-ce que vous faites ces ateliers de stimulation?
Une question là dans la... 1, 2, 3, 4, 5... Attendez, on vous apporte le micro.
En fait, on pourrait poser beaucoup de questions par rapport à l'atelier qui était sur la mémoire sémantique. Est-ce que c'était uniquement sur la mémoire sémantique? Est-ce que c'était sur toutes les mémoires? Qu'est-ce qui faisait que les enfants participaient ou pas à cet atelier? Est-ce que c'était au travers de bilans préalables ou pas? Comment étaient mesurés les effets? Est-ce qu'ils étaient retrouvés dans la vie quotidienne? Enfin, tout pas mal de choses finalement. Oui. Donc il y a peut-être trop de questions.
En fait, dans les premières années, on était dans un tâtonnement. Alors on a fait passer plusieurs ateliers comme ça de mémoire, d'attention, de perception, parce que nous étions à la recherche. Nous avons senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais on ne savait pas quoi. Donc c'était un peu au niveau de la classification, de la sériation, c'était au niveau un peu côté qu'est-ce qu'on va apprendre, qu'est-ce qu'on va retenir, si c'est quelque chose qui est dans le désordre, ou bien si c'est quelque chose qui est suivant une thématique et des catégories. Donc ça a été fait avec plusieurs jeunes, même jusqu'à l'âge de 15-16 ans, mais avec des difficultés différentes pour voir... comment ils pouvaient réagir à ceci. Donc vous voyez, c'était un peu dans des contextes différents. Et puis après, bien sûr, on a compris le processus et on a essayé de faire en parallèle avec l'enseignement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne va pas et quelles sont les difficultés et les faiblesses. Et les ateliers, à ce moment-là, de stimulation étaient construits en fonction des faiblesses et des troubles qu'on décelait lors d'un enseignement ordinaire. C'était justement pour compléter, c'était pour essayer de remédier. Donc au départ, c'était des ateliers de stimulation pour dépister, pour comprendre, pour voir comment l'enfant pouvait réagir, mais après, c'était dans un contexte de remédiation.
Et par rapport à la remédiation, par rapport aux effets de la remédiation, alors je ne sais pas si vous l'avez fait, si vous envisagez de le faire, ce n'est pas toujours non plus évident, on est bien d'accord. Hein. Ouais. Pour évaluer, vous avez montré qu'il y avait un effet en termes d'attention, par exemple, à un moment donné, sur les tests attentionnels, sur d'autres tests en comparaison, puisqu'on n'a pas de groupe contrôle, en fait. Et puis par rapport à des questionnaires de vie quotidienne ou est-ce que par exemple les parents ont vu qu'il y avait une amélioration de l'attention ou les enseignants en classe ou des choses comme ça en fait.
Oui, tout à fait, justement c'était l'étude que je vous ai montrée qui a été faite entre 2005 et 2007 quand avant avec ce groupe là il n'y avait pas d'atelier de stimulation sur l'attention et comment ça a varié, mais ça a pris quand même 2 ans. C'est pour ça que je dis nous misons sur le facteur temps et c'est le temps qui a amené ces enfants à entrer dans ce processus qui est devenu par la suite automatique et systématique. Mais il y avait un enfant qui avait échappé à ça. Donc ça a été fait avec d'autres groupes bien sûr, mais moi je vous ai montré seulement le groupe qui a servi, si vous voulez, de suivi pendant ces 3 années consécutives.
Ce qui me semble aussi important, ce que vous avez dit tout à l'heure, mais vous êtes passé un peu vite, je crois, c'est la liaison étroite qui doit exister entre les personnes qui travaillent dans ce groupe de stimulation et, par exemple, les professeurs.
Oui.
Je pense qu'il doit y avoir là une relation étroite, un feedback aussi, un aller-retour.
Les ateliers de stimulation se font avec les enfants, mais des ateliers de coordination se font tout au long de la semaine, c'est une fois chaque 2 semaines ou bien chaque 3 semaines, où il y a une coordination entre les intervenants dans les ateliers et les enseignants pour faire le suivi, pour voir un tout petit peu comment l'enfant réagit à cette démarche. Et ça se fait ou bien une fois chaque 3 semaines ou bien une fois chaque 2 semaines si c'est nécessaire. Donc aussi des réunions de coordination.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que certains des exercices qu'on a vus pourraient être faits en classe par le professeur?
Oui, c'est très basique, c'est des choses qu'on utilise, justement j'ai dit ça, dans les classes, mais ils n'ont pas le même objectif que les ateliers. D'accord. Parce qu'en classe, nous avons un enseignement, il y a des objectifs, il faut suivre ceci, et il n'y a pas cette interaction entre les élèves. Ici, c'est un cadre nouveau, ils savent très bien, ça c'est l'atelier de stimulation, on va avoir stimulation maintenant, ils le savent. Ils courent, ils s'installent, ils sont dans un cadre qu'ils aiment, ils savent très bien qu'il y a une interaction, c'est toujours interactif, avec le même concept peut-être, mais alors ici, comme vous avez vu, l'éducatrice n'est pas intervenue, elle les a laissés, ils ont découvert par eux-mêmes que cette jeune fille a fait beaucoup d'erreurs, ils ont essayé de la corriger et c'est ça le but, un des buts de cet atelier, c'est de les amener à repérer ce qui ne va pas, à dire à la personne, maintenant c'est à nous de suivre cette personne, c'est pas à eux. C'est-à-dire cet atelier ne va pas apporter un plus à la jeune fille si elle n'est pas cadrée par ailleurs. Donc c'est ça ce qu'il faut dire aux enseignants. Comment faire pour suivre cette jeune fille qui a tellement de difficultés? Et c'était elle, c'était cette jeune fille qui n'arrivait pas à sauter et qui s'est arrêtée au nombre 3. Elle a dit 3, parce que dans sa tête, on s'arrête à 3, on ne saute pas 3 fois.
Dit autrement, donner des conseils qui sont donner des conseils à l'enseignant issus de l'expérience dans ses ateliers.
Oui, en fait, ce n'est pas des conseils autant que c'est beaucoup de collaboration, parce qu'on tient compte du fait que, comme nous sommes par exemple orthophonistes, psychologues, etc., nous ne sommes pas des enseignants. L'enseignant, il est dans son cadre, il doit nous donner autant d'informations nécessaires qui seraient complémentaires à notre savoir aussi. On va mettre tout ça en même temps, on va cuisiner, on va sortir quelque chose. D'accord. C'est ça la coordination, en fait.
Très bien. D'autres questions? Non? Bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette intervention.
Merci à vous.
Bravo. Et puis, on libère l'amphi pour le concert de ce soir, pour l'installation du concert de ce soir. Merci.
Merci à vous.